Pour audiocité.net, les éditions de l'Avenir présentent L'attaque du moulin d'Émile Zola, lu par Christian Martin, avec la participation de Fred et K00. Chapitre 4. Dès le petit jour, des éclats de voix ébranlèrent le moulin. Le père Merlier était venu ouvrir la porte de Françoise. Elle descendit dans la cour, pâle et très calme. Mais là, elle ne put réprimer un frisson en face du cadavre d'un soldat prussien qui était allongé près du puits, sur un manteau étalé. Autour du corps, des soldats gesticulaient, criaient sur un ton de fureur. Plusieurs d'entre eux montraient les poings au village. Cependant, l'officier venait de faire appeler le père Merlier comme maire de la commune.
Voici,
lui dit-il d'une voix étranglée par la colère,
un de nos hommes que l'on a trouvé assassiné sur le bord de la rivière. Il nous faut un exemple éclatant. Et je compte que vous allez nous aider à découvrir le meurtrier.
Tout ce que vous voudrez,
répondit le meunier avec son flegme.
Seulement, ce ne sera pas commode.
L'officier s'était baissé pour écarter un pan du manteau qui cachait la figure du mort. Alors apparut une horrible blessure. La sentinelle avait été frappée à la gorge et l'arme était restée dans la plaie. C'était un couteau de cuisine à manche noire.
« Regardez ce couteau, »
dit l'officier au père Merlier.
« Peut-être nous aidera-t-il dans nos recherches. »
Le vieillard avait eu un tressaillement. Mais il se remit aussitôt. Il répondit sans qu'un muscle de sa face bougeât.
« Tout le monde a des couteaux pareils dans nos campagnes. Peut-être que votre homme s'ennuyait de se battre et qu'il se sera fait son affaire lui-même. Ça se voit. »«
Vas-y-vous. »
cria furieusement l'officier.
Je ne sais ce qui me retient de mettre le feu aux quatre coins du village.
La colère, heureusement, l'empêchait de remarquer la profonde altération du visage de Françoise. Elle avait dû s'asseoir sur le banc de pierre près du puits. Malgré elle, ses regards ne quittaient plus ce cadavre, étendu à terre presque à ses pieds. C'était un grand et beau garçon qui ressemblait à Dominique, avec des cheveux blonds et des yeux bleus. Cette ressemblance lui retournait le cœur. Elle pensait que le mort avait peut-être laissé là-bas, en Allemagne, quelque amoureuse qui allait pleurer. Et elle reconnaissait son couteau dans la gorge du mort. Il l'avait tué. Cependant, l'officier parlait de frapper Rocreuse de mesures terribles lorsque des soldats accoururent. On venait de s'apercevoir seulement de l'évasion de Dominique. Cela causa une agitation extrême. L'officier se rendit sur les lieux, regarda par la fenêtre laissée ouverte, comprit tout et revint exaspéré. Le père Merlier parut très contrarié de la fuite de Dominique.
L'imbécile,
murmura-t-il.
Il garde tout.
Françoise, qui l'entendit, fut prise d'angoisse. Son père, d'ailleurs, ne soupçonnait pas sa complicité. Il hocha la tête en lui disant à demi-voix
« À présent, nous voilà propres. »«
C'est Gredin, c'est Saint-Gredin !»
criait l'officier.
« Il aurait gagné les bois. Mais il faut qu'on nous le retrouve, le village fera pour lui. »
Et, s'adressant au meunier,
« Voyons, vous devez savoir où il se cache. »
Le père Merlier eut son rire silencieux en montrant la large étendue des coteaux boisés.
« Comment voulez-vous trouver un homme là-dedans »
dit-il.
« Oh, il doit y avoir des trous que vous connaissez. Je vais vous donner 10 hommes. Vous les guiderez. »«
Je veux bien. Seulement, il nous faudra 8 jours pour battre tous les bois des environs. »
La tranquillité du vieillard enrageait l'officier. Il comprenait en effet le ridicule de cette battue. Ce fut alors qu'il aperçut sur le banc Françoise, pâle et tremblante. L'attitude anxieuse de la jeune fille le frappa. Il se tut un instant, examinant tour à tour le meunier et Françoise.
« Est-ce que cet homme, »
finit-il par demander brutalement au vieillard.
« N'est pas la mort de votre fille ?»
Le père Merlier devint livide et l'on put croire qu'il allait se jeter sur l'officier pour l'étrangler. Il se raidit, il ne répondit pas. Françoise avait mis son visage entre ses mains.
« Oui, c'est cela. »
continua le Prussien.
« Vous, votre fille, l'avez aidé à fuir. Vous êtes son complice. Une dernière fois, voulez-vous nous le livrer ?»
Le meunier ne répondit pas. Il s'était détourné, regardant au loin d'un air indifférent, comme si l'officier ne s'adressait pas à lui. Cela mit le comble à la colère de ce dernier.
« Eh bien,
déclara-t-il,
vous allez être fusillé à sa place. »
Et il commanda une fois encore le peloton d'exécution. Le père Merlier garda son flègue. Il eut à peine un léger haussement d'épaule. Tout ce drame lui semblait d'un goût médiocre. Sans doute, il ne croyait pas qu'on fusillât un homme si aisément. Puis, quand le peloton fut là, il dit avec gravité
« Alors, tu es sérieux ? Je veux bien. S'il vous en faut absolument, moi autant qu'un autre. »
Mais François s'était levé, affolé, bégayant.
« Grâce, monsieur, ne faites pas du mal à mon père. Tuez-moi à sa place. C'est moi qui ai aidé Dominique à fuir. Moi seul suis coupable. »«
Dis-toi, fillette !»
s'écria le père Merlier.
« Pourquoi mens-tu ? Elle a passé la nuit enfermée dans sa chambre, monsieur. Elle ment, je vous assure. »«
Non, je ne mens pas !»
reprit ardemment la jeune fille.
« Je suis descendue par la fenêtre. J'ai poussé Dominique à s'enfuir. C'est la vérité, la seule vérité. »
Le vieillard était devenu très pâle. Il voyait bien dans ses yeux qu'il ne mentait pas, et cette histoire l'épouvantait. Ah, ces enfants avec leur cœur, comme ils gâtaient tout! Alors, il se fâcha.
« Elle est folle, ne l'écoutez pas. Elle vous raconte des histoires stupides. Allons, finissons-en. »
Elle voulut protester encore. Elle se genouilla, elle joignit les mains. L'officier, tranquillement, assistait à cette lutte douloureuse.
« Mon Dieu !»
finit-il par dire.
« Je prends votre père parce que je ne tiens plus l'autre. Tâchez de retrouver l'autre et votre père sera libre. »
Un moment, elle le regarda, les yeux agrandis par l'atrocité de cette proposition.
« C'est horrible !»
murmura-t-elle.
« Où voulez-vous que je retrouve Dominique, à cette heure ? Il est parti, je ne sais plus. »
« Enfin, choisissez. Lui ou votre père. »
Oh, mon Dieu, est-ce que je puis choisir? Mais je saurai où est Dominique que je ne pourrai pas choisir. C'est mon cœur que vous coupez. J'aimerais mieux mourir, tout de suite, oui. Ce serait plutôt fait. Tuez-moi, je vous en prie, tuez-moi.
Cette scène de désespoir et de larmes finissait par impatienter l'officier. Il s'écria.
En voilà assez. Je veux être bon. Je consens à vous donner 2 heures. Si, dans 2 heures, votre amoureux n'est pas là, votre père paiera pour lui. »
Et il fit conduire le père Merlier dans la chambre qui avait servi de prison à Dominique. Le vieux demanda du tabac et se mit à fumer. Sur son visage impassible, on ne lisait aucune émotion. Seulement, quand il fut seul, tout en fumant, il pleura 2 grosses larmes qui coulèrent lentement sur ses joues. Sa pauvre et chère enfant, comme elle souffrait. Françoise était restée au milieu de la cour. Des soldats prussiens passaient en riant. Certains lui jetaient des mots, des plaisanteries qu'elle ne comprenait pas. Elle regardait la porte par laquelle son père venait de disparaître. Et d'un geste lent, elle portait la main à son front comme pour l'empêcher d'éclater. L'officier tourna ses talons en répétant
« Vous avez 2 heures. Tâchez de les utiliser. »
Elle avait 2 heures. Cette phrase bourdonnait dans sa tête. Alors, machinalement, elle sortit de la cour, elle marcha devant elle. Où aller? Que faire? Elle n'essayait même pas de prendre un parti, parce qu'elle sentait bien l'inutilité de ses efforts. Pourtant, elle aurait voulu voir Dominique. Ils se seraient entendus tous les deux, ils auraient peut-être trouvé un expédient. Et au milieu de la confusion de ses pensées, elle descendit au bord de la Morelle, qu'elle traversa en dessous de l'écluse à un endroit où il y avait de grosses pierres. Ses pieds la conduisirent sous le premier saule, au coin de la prairie. Comme elle se baissait, elle aperçut une mare de sang qui la fit pâlir. C'était bien là, et elle suivit les traces de Dominique dans l'herbe foulée. Il avait dû courir, on voyait une ligne de grands pas coupant la prairie de biais. Puis, au-delà, elle perdit ses traces. Mais dans un pré voisin, elle crut les retrouver. Cela la conduisit à la lisière de la forêt, où toute indication s'effaçait. François s'enfonça quand même sous les arbres. Cela la soulageait d'être seule. Elle s'assit un instant. Puis, en songeant que l'heure s'écoulait, elle se remit debout. Depuis combien de temps avait-elle quitté le moulin? 5 minutes? 1 demi-heure? Elle n'avait plus conscience du temps. Peut-être Dominique était-il allé se cacher dans un taillis qu'elle connaissait, où ils avaient, une après-midi, mangé des noisettes ensemble. Elle se rendit au taillis, le visita. Un merle, seul, s'envola, en sifflant sa phrase douce et triste. Alors, elle pensa qu'il s'était réfugié dans un creux de roche où il se mettait parfois à l'affût. Mais le creux de roche était vide. À quoi bon le chercher? Elle ne le trouverait pas. Et peu à peu, le désir de le découvrir la passionnait, elle marchait plus vite. L'idée qu'il avait dû monter dans un arbre lui vint brusquement. Elle avança dès lors, les yeux levés, et pour qu'il la sût près de lui, elle l'appelait tous les 15 à 20 pas. Des coucous répondaient, un souffle qui passait dans les branches lui faisait croire qu'il était là et qu'il descendait. Une fois même, elle s'imagina le voir. Elle s'arrêta, étranglée, avec l'envie de fuir. Qu'allait-elle lui dire? Venait-elle donc pour l'emmener et le faire fusiller? Oh non! Elle ne parlerait point de ces choses. Elle lui crierait de se sauver, de ne pas rester dans les environs. Puis, la pensée de son père qui l'attendait lui causa une douleur aiguë. Elle tomba sur le gazon en pleurant, en répétant tout haut.
« mon Dieu, pourquoi suis-je là ?»
Elle était folle d'être venue. Et comme prise de peur, elle courut, elle chercha à sortir de la forêt. 3 fois, elle se trompa et elle croyait qu'elle ne retrouverait plus le moulin lorsqu'elle déboucha dans une prairie juste en face de Recreuse. Dès qu'elle aperçut le village, elle s'arrêta. Est-ce qu'elle allait rentrer seule? Elle restait debout quand une voix l'appela doucement.
« Françoise! Françoise! »
Elle vit Dominique qui levait la tête au bord d'un fossé. Juste Dieu! Elle l'avait trouvé! Le ciel voulait donc sa mort? Elle retint un cri et se laissa glisser dans le fossé.
« Tu me cherchais ?»
demanda-t-il.
« Oui ?»
répondit-elle, la tête bourdonnante, ne sachant ce qu'elle disait.
« Ah, que se passe-t-il ? »
Elle baissa les yeux, elle balbutia.
« Mais rien. J'étais inquiète. Je désirais te voir. »
Alors, tranquillisé, il lui expliqua qu'il n'avait pas voulu s'éloigner. Il craignait pour eux. Ces gredins des Prussiens étaient capables de se venger sur les femmes et sur les vieillards. Enfin, tout allait bien, et il ajouta en riant.
« L'annonce sera pour dans 8 jours. Voilà tout. »
Puis, comme elle restait bouleversée, il redevint grave.
« Mais qu'as-tu? Tu me caches quelque chose. »«
Non, je te jure. J'ai couru pour venir. »
Il l'embrassa en disant que c'était imprudent pour elle et pour lui de causer davantage. Il voulut remonter le fossé afin de rentrer dans la forêt. Elle le retint. Elle tremblait.
« Écoute, tu ferais peut-être bien, tout de même, de rester là. Personne ne te cherche. Tu ne crains rien. »«
Françoise, tu me caches quelque chose. »
répéta-t-il. De nouveau, elle jura qu'elle ne lui cachait rien. Seulement, elle aimait mieux le savoir près d'elle. Et elle bégaya encore d'autres raisons. Elle lui parut si singulière que maintenant lui-même aurait refusé de s'éloigner. D'ailleurs, il croyait au retour des Français. On avait vu des troupes du côté de Sauval.
« Ah, qu'il se presse, qu'il soit ici le plus tôt possible !»
murmura-t-elle avec ferveur. À ce moment, 11 heures sonnèrent au clocher de Recreuse. les coups arrivaient, clairs et distincts. Elle se leva effarée. Il y avait 2 heures qu'elle avait quitté le moulin.
« Écoute, »
dit-elle rapidement.
« Si nous avons besoin de toi, je monterai dans ma chambre et j'agiterai mon mouchoir. »
Et elle partit en courant, pendant que Dominique, très inquiet, s'allongeait au fond du fossé pour surveiller le moulin. Comme elle allait rentrer dans Recreuse, François rencontra un vieux mendiant, le père Bontemps, qui connaissait tout le pays. Il la salua. Il venait de voir le meunier au milieu des Prussiens. Puis, en faisant des signes de croix et en marmottant des mots entrecoupés, il continua sa route.
« Les 2 heures sont passées, »
dit l'officier quand Françoise parut. Le père Merlier était là, assis sur le banc, près du puits. Il fumait toujours. La jeune fille, de nouveau, supplia, pleura, s'agenouilla. Elle voulait gagner du temps. L'espoir de voir revenir les Français avait grandi en elle, et tandis qu'elle se lamentait, elle croyait entendre au loin les pas cadencés d'une armée. Oh, s'ils avaient paru, s'ils les avaient tous délivrés.
Écoutez, monsieur, 1 heure, encore 1 heure. Vous pouvez bien nous accorder 1 heure.
Mais l'officier restait inflexible. Il ordonna même à 2 hommes de s'emparer d'elle et de l'emmener pour qu'on procédât à l'exécution du vieux tranquillement. Alors, un combat affreux se passa dans le cœur de Françoise. Elle ne pouvait laisser ainsi assassiner son père. Non, non, elle mourrait plutôt avec Dominique. Et elle s'élança vers sa chambre lorsque Dominique lui-même entra dans la cour. L'officier et les soldats poussèrent un cri de triomphe. Mais lui, comme s'il n'y avait eu là que Françoise, s'avança vers elle, tranquille, un peu sévère.
« C'est mal, »
dit-il.
« Pourquoi ne m'avez-vous pas ramené? Il a fallu que le père Bontemps me contât les choses. Enfin, me voilà. »